Bonjour et bienvenue sur Corsica Radio pour un nouveau numéro de Revue de Corse. Nouveau numéro, mais surtout toute nouvelle formule. Désormais, chaque semaine, j'aurai le grand plaisir d'accueillir des experts, des journalistes, des éditorialistes, des personnalités qualifiées et engagées, invitées à partager leur analyse, leur regard sur l'actualité insulaire. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux en commentaire et par message, on vous attend. Fin du suspense, pour m'accompagner aujourd'hui, Michel Barra, ancien recteur de l'Académie de Corse. Bonjour Michel.
Bonjour.
En face de vous, Laurent Dominati, ancien député, ancien ambassadeur, vous êtes un homme de médias, créateur de l'hebdomadaire numérique d'information destiné aux Français de l'étranger, lesfrançais.presse. Vous présidez également l'association Sauver la Méditerranée, qui organise tout prochainement son premier festival à Ajaccio. Bonjour Laurent Dominati.
Bonjour et vous êtes tous invités à ce festival à Ajaccio le 20, 21
Et 22 mai, on en reparlera. Enfin, François Casasoprane, ancien élu de la ville d'Ajaccio et de feu le Conseil général de Corse du Sud, responsable du mouvement...
En Corse, optimiste, éco.
Éco. Vous l'êtes ?
Bonjour. Optimiste ?
Oui.
Bien sûr.
Vous nous aiderez à trouver...
Des motifs d'espoir et d'optimisme.
C'est ça, à retrouver la gauche en Corse et ailleurs ?
On va essayer.
On va essayer. Parfait. Allez, on commence, si vous le voulez bien, par le sujet politique incontournable de ces derniers jours, l'élection présidentielle et plus particulièrement les résultats insulaires. Rapide rappel des faits, Marine Le Pen est arrivée en tête lors des deux tours de l'élection présidentielle. Premier tour, 28,6% contre 18,1% des suffrages pour Emmanuel Macron, relégué à la deuxième place. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Jean Lassalle, propulsé devant Valérie Pécresse. Au second tour, logiquement, l'écart se creuse, 58% pour Marine Le Pen contre 41,9% pour le président sortant. Voilà pour les chiffres, ce qui m'intéresse est de savoir ce qu'ils cachent. Michel Barra, vous avez la parole sur le paradoxe corse à la fois nationaliste et bleu marine.
Ah ben pour moi, il n'y a pas de paradoxe. Mm-hmm. Le nationalisme est le nationalisme. Donc, je ne vois pas d'incohérence que dans l'île où les gens ont voté nationaliste et qu'ils revotent nationaliste au niveau de l'élection présidentielle. Le fond intellectuel, c'est le même. Maintenant, il pourrait y avoir des différences parce que parmi les gens qui votent nationaliste ou parmi les gens qui se disent nationalistes, il y en a qui ne sont pas nationalistes mais autonomistes, ce qui n'est pas la même chose. Il y en a qui peuvent même être indépendantistes sans être nationalistes. Mais dans la réalité des choses, ils choisissent le nom de nationaliste. À plusieurs reprises, parmi eux, il y en a qui sont même mes amis. Je leur ai dit, mais pourquoi vous gardez le mot nationaliste ? Le nationalisme, ça signifie bien quelque chose. C'est fondé, effectivement... Non pas sur l'héritage culturel, mais sur l'hérédité. C'est le droit du sang, c'est pas le droit de la culture. Donc il y a un vrai problème. Et ça marche. Et en plus, ça va rencontrer quoi ? Ceux qui sont violemment anti-autonomistes ou violemment anti-indépendantistes, qui est le nationalisme français. Donc nous avons ici le résultat de la rencontre de deux nationalismes qui ne peuvent, à mon avis, ne mener qu'à la catastrophe.
Laurent Dominati, est-ce que c'est une anomalie, une incohérence pour vous ? Pas du tout.
Ah non, j'approuve totalement ce que vient de dire Michel Barra avec justesse. C'est effectivement l'idéologie nationaliste qui, à mon sens, mène effectivement à la catastrophe, que ce soit pour l'Italie, pour la France, pour la Corse, ce que vous voulez.
On ne peut pas détacher les deux scrutins, l'enjeu régional et l'enjeu national.
Enfin, il y a un socle, si vous voulez, il y a même un double socle, si je pouvais rajouter quelque chose. Il y a le socle idéologique, que vient d'écrire Michel Barra excellemment. Et puis, il y a aussi le socle, il y en a marre. Hein. Mmh. Paris, on n'en veut plus. Le système à la poubelle. Et voilà. Et c'est vrai, donc, à Romorantin, à Gennevilliers et à Ajaccio, à Bastia. Voilà. Donc, quand on est contre Paris, contre le système, entre guillemets, qui pourtant a aussi du bon, parfois, il faut le dire, eh bien, à ce moment-là, on vote pour ceux qui se définissent comme les anti-systèmes. Alors, vous avez le choix. Vous avez, au niveau national, Mélenchon et Le Pen, peut-être un peu Zemmour. Et puis, au niveau, je dirais, plus local, vous avez les nationalistes, j'allais dire, plus purs que durs.
Il n'y a pas d'idéologie pour vous.
Il y a les plus deux, que ça. Je complète. Je trouve que Michel Barra a parfaitement exposé. L'idéologie nationaliste, elle existe partout, et avec ce que l'on sait. Et puis, il y a aussi ce réflexe, je dirais, un peu plus d'humeur, qui n'est pas forcément idéologique, mais qui est cette humeur anti-système. Ah non, Paris, tout ça, c'est bourgeois. Tout ça, on est malheureux, donc on vote contre.
Plus les petits événements de proximité qui ont eu lieu.
C'est ça, on y revient. Donc, un dialogue au mieux poussif avec Paris, une situation sociale tendue. Un racisme bien présent, il ne faut pas le nier. Et un mois de mars rythmé par de violents affrontements suite à l'agression puis au décès d'Yvan Colonne. Alors François Casasoprane, nous avons là tous les ingrédients nécessaires à un rassemblement national fort.
Oui, je pense que ça a été dit. On a un ferment idéologique, c'est vrai. Et l'exaltation constante du nationalisme prépare le terrain aussi à ce genre de score. Mais il y a aussi, et ça a été dit, ce qu'on appelle des petites choses, mais ce n'est pas des petites choses, hein, c'est des choses quand même importantes, significatives aussi du rapport à l'État, du rapport à la puissance publique, du rapport aussi à la capacité de faire ensemble. Tout ça fait que ça crée, là aussi, le terrain est alimenté. Ça veut dire aussi que ça nous oblige tous. Ça oblige certainement la famille nationaliste à regarder de son côté, regarder son logiciel, mais ça nous oblige tous aussi, peut-être, à être performants sur la démocratie locale, à être performants sur les principes. L'universalisme, c'est un peu l'opposé également du nationalisme. Et il y a eu, au cours des dernières années, il faut le dire, dans toutes les familles politiques, à la fois des signaux d'adhésion, de solidarité internationale, et puis à la fois, parfois, de la défiance également sur ces aspects-là. Il faut qu'il y ait une responsabilité collective et qu'on aille sur des terrains peut-être un peu moins idéologique et un peu plus programmatique, justement, sur la démocratie locale, notamment.
Michel
Barra. Oui, parce que ce qu'on appelle les petites choses, qui sont parfois des choses très graves. Prenons celle qui a mis le feu aux poudres. L'assassinat en prison de Colonna. Si on le regarde objectivement, c'est pas une question politique, c'est une question judiciaire. C'est-à-dire qu'il met en cause l'administration pénitentiaire au plus haut degré. D'ailleurs, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas eu de sanction dans l'administration judiciaire. De détenus particulièrement surveillés dont l'un tue l'autre sous les caméras de l'administration pénitentiaire. Bon, il y a un vrai scandale d'État, mais ce n'est pas celui que les Corses voient. Le scandale d'État, c'est le fonctionnement de l'administration pénitentiaire. Okay, bon. Mais à partir de ce moment-là, pourquoi c'est comme ça? Mais est-ce que ça a bougé d'un doigt le regard que met l'État, et quand je dis l'État, ou que même met la France continentale sur la Corse? Il fut un temps où la moindre bombinette sur le moindre petite bergerie déplaçait tous les hommes politiques de gauche, de droite et du centre français. Aujourd'hui, on a l'impression que le continent et l'État n'a plus de regard sur la Corse. Le vrai problème, il est aussi là pour la Corse. C'est le désintéressement, non pas de la question de Corse, parce que pour moi, il n'y a pas une question Corse, il n'y a qu'une question française, mais le désintéressement pour la région Corse de la part de ce qui vient du continent.
François Casasoprane.
C'est un vrai moment de crise, cet assassinat. D'abord, parce qu'on n'est pas loin, on y est, d'une affaire d'État. L'absence de réaction, des condamnations qui ne mettent pas en cause aussi les dysfonctionnements de l'État. Ça entraîne aussi une réflexion politique et une analyse politique assez quand même paradoxale. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui a freiné des quatre fers, qui n'a jamais mis la question de la décentralisation. On ne parle même pas de la Corse. Qui n'a jamais mis la question de la décentralisation des pouvoirs locaux, du statut particulier de cette collectivité de Corse, assez unique. Il n'y a pas eu de suite à la loi NOTRe et à la fusion du conseil des deux conseils départementaux et de la collectivité de Corse. Et du jour au lendemain, on est passé à une discussion sur l'autonomie où je dois dire quand même que le ministre de l'Intérieur a fait fort, parce qu'il n'a même pas ouvert la discussion. Il a quasiment fermé en arrivant avec un statut bouclé en disant « ça sera comme la Polynésie ».
On y reviendra un petit peu plus
tard. On n'est pas loin du double langage.
Mais on peut noter quand même que la décentralisation ne faisait même pas partie des thèmes de campagne.
Tout à fait. Et on n'est pas loin en Corse du double langage. En plus du désintérêt, le double langage, et ça ne fait pas bon ménage.
Je ne suis pas sûr que les Corses, moi qui travaillais en Océanie, sachent exactement ce qu'est le statut polynésien. Je ne vois pas comment on pourra revendiquer un rattachement et des financements européens forts en demandant le statut polynésien.
Et quand même, la distance au continent n'est pas tout à fait la même en plus.
C'est pas tout à fait
les
la
relations
même.
Au quotidien ne sont pas tout à fait
la
même.
La référence d'habitude qui était prise en Corse, c'était là où moi j'étais, c'était le statut calédonien et non pas le statut polynésien, qui ne sont pas du tout les mêmes.
Et on est dans un processus quand même politique de co-construction, de responsabilité locale. On est dans une démarche assez forte et assez positive.
Laurent Dominati.
Oui, il y a deux questions. La première, c'est celle du désintérêt. Et effectivement, on peut sentir un certain désintérêt. Et ça, c'est très dommageable pour la Corse, évidemment.
Même pour la France.
Mais pas seulement pour la Corse.
Et pour
c'est
la
très
France.
Dommageable pour la France, c'est-à-dire pour la République.
Oui.
Dans certaines conversations que j'ai eues, effectivement, j'ai pu dire on peut s'en laver les mains, mais enfin, ça n'est pas républicain. On doit se préoccuper du moindre village de la République, fût-il en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, dans le Limousin ou en Corse. La deuxième question, et là j'ai un désaccord, non, le ministre de l'Intérieur n'est pas venu avec déjà un statut ficelé et décidé. Il a simplement dit, si on le lit, non, il a dit « je n'ai pas de tabou et donc je suis prêt à discuter jusqu'au... » Ça n'est tout de même pas tout à fait la même chose. Ça veut dire « je viens justement sans tabou et sans préjugés et sans un statut ficelé à l'avance. » Voilà jusqu'où on peut aller au maximum. Parce qu'effectivement, ça reste la France avec le domaine régalien, la diplomatie, la défense, la justice. C'est le domaine régalien. Voilà ce qu'il a voulu dire. Il n'est certainement pas arrivé avec l'ensemble. Et si on suit les discussions, déjà les prédiscussions qu'il a pu avoir à l'Assemblée de Corse, bon, ça veut dire ce sont déjà... non, il n'arrive pas avec une idée toute ficelée. On le saurait déjà. Je pense que là, ça n'est pas exact. Je pense au contraire qu'il arrive l'esprit ouvert et de toute crise, puisque j'ai là un optimiste par nature et par devoir, je lui renvoie la balle, et bien de toute crise, il faut en tirer le meilleur. Ça veut dire qu'après tout, ces années qui n'ont pas été bonnes, ces cinq dernières années n'ont pas été bonnes, et c'est la faute de tout le monde, hein, pas que du gouvernement. Il y a aussi beaucoup à se reprocher ici, il faut quand même le dire.
Quelle que soit la majorité,
il faut quand même aussi parfois savoir battre sa coupe. Mais bon, très bien, allons vers l'avant. Et donc de tout cela peut sortir quelque chose de positif. Et soyons optimistes, essayons d'être plus, pas nous autour de la table, parce que nous ne sommes pas des décideurs, mais essayons de voir ce qu'il est possible de faire de sérieux, d'intelligent et de prometteur pour la Corse et pour la République.
Alors, François Casasoprane, vous répondrez ensuite sur l'autonomie, mais avant cela, peut-on être optimiste pour la gauche en ce moment ? Quelques mots sur ce parti socialiste à la dérive en Corse. Anne Hidalgo réalise 1,07% des suffrages, ça veut dire 1583 voix au premier tour. Une précision, Fabien Roussel, pour le Parti communiste, rassemble 3,08% des suffrages. François Casasoprane, sur l'état de la gauche.
Bah sur la gauche, on peut être un petit peu optimiste parce qu'il y a quand même eu, quand on met bout à bout, la pléthore de candidats qui se sont déclarés, puis un petit peu moins qui sont entrés en campagne, il y a quand même eu des motifs d'adhésion, il s'est passé des choses. La principale difficulté, c'est une certaine paresse de travail au cours des dernières années, qui ne remonte pas d'ailleurs à ce quinquennat-ci, pour aller à la rencontre d'un certain nombre de difficultés réelles. On parlait tout à l'heure de la décentralisation. La gauche, qui a quand même beaucoup porté la décentralisation, au cours de ces dernières années, elle a été un petit peu absente de ces débats. On pourrait parler aussi, et ça c'est un vrai marqueur de la gauche, de la question sociale, de la question justement des droits, de notre modèle aussi, face à un certain nombre d'attaques, face à un certain nombre de conceptions différentes. Sans parler d'attaques, est-ce qu'on est sur un filet de sécurité juste pour protéger les plus faibles? Est-ce qu'on est sur un système vraiment redistributif qui peut marquer l'identité aussi de la République? Sur toutes ces questions, la gauche a été quand même absente et avec même beaucoup de contradictions entre elles. Donc des motifs d'espoir, ils y sont, parce qu'il y a un besoin quand même d'une voix forte sur ces sujets. Et historiquement, la gauche l'a toujours portée. Puis pour paraphraser un célèbre président, l'union est un combat. Elle n'est pas ni une soumission, ni une capitulation. Suivez mon regard.
Alors en même temps, pas de jaloux, les Républicains ne sont pas en grande forme non plus, hein, toujours en Corse. Valérie Pécresse a réuni 6,33% des suffrages. Alors messieurs, un quinquennat aura-t-il suffi à réduire les grands partis traditionnels à peau de chagrin? Qui se lance? Michel Barra. Alors,
je ne crois pas que ce soit le quinquennat qui vient de se terminer, là, ou qui va se terminer en quelques jours, qui a détruit les anciens partis. Je crois qu'ils se sont eux-mêmes détruits parce qu'ils n'ont strictement rien compris à la modernité. À partir de ce moment-là, l'arrivée de quelqu'un comme Emmanuel Macron, il se, Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'était écrit. C'est une inconscience totale de la réalité, des changements de situation, d'une mentalité, je vais dire, philosophico-politique qui est celle du 19e siècle par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Donc, ces partis se sont auto-dissous et il ne peut pas en être autrement. Il ne faut pas pleurer dessus. Là, moi qui ne suis pas un optimiste, que je pense que l'optimisme conduit à la béatitude et que la béatitude n'est pas de ce monde. Donc, et que je pense que le pessimiste qui pense que le pire peut arriver empêche que le pire arrive. Mais cela dit, bon, c'est une autre procédure d'action. Mais là, il faudrait peut-être plutôt ne pas pleurer, bien au contraire, dire que c'est l'ouverture des possibles qui apparaissent. Hein. Moi, je ne sais pas comment qualifier l'actuel président de la République. Homme de gauche, homme de droite, c'est pas si évident que ça. Le « en même temps » correspond bien à une réalité, y compris dans les décisions politiques prises. Par contre, le problème de la cohérence se pose.
Laurent Dominati, va-t-on insister à une refonte du paysage politique national après les législatives ?
C'est déjà fait. Les législatives ne feront qu'entériner le vote élection présidentielle. Enfin, à mon sens, le vote élection présidentielle. Je pense que le président Macron aura une majorité confortable. Il y aura des problèmes après, parce qu'une fois qu'il y a une majorité pléthorique, à ce moment-là, il y a les courants à l'intérieur qui se divisent, d'autant plus qu'il ne sera pas candidat à sa réélection. Donc immédiatement, chacun va se placer, constituer des équipes, des écuries. Bon, ça va être terrible, ça va être terrible. Mais bon, sur les familles politiques françaises, je crois qu'il y a eu deux partis qui sont suicidés, effectivement, qui étaient les anciens partis de gouvernement de la Ve République. C'est que ça. Ils sont suicidés. Je dirais c'est mérité. Ils ont fait tellement d'erreurs, ils ont tellement eu de paresse, effectivement, intellectuelle, que après tout, ben, ça se comprend. Maintenant, ce qui est même pour moi, hein, je dirais un petit peu inquiétant, c'est qu'effectivement, il y a un centre qui a ses forces, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant, même très fort. Et puis, il y a quand même, je dirais, une droite nationaliste ou ultranationaliste, une extrême droite, peu importe comment on la qualifie, elle est là, elle fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix, près d'un tiers des voix. Et il y a quand même un quart des voix avec Mélenchon qui me paraît tout aussi extrémiste et qui me paraît tout aussi dangereux.
Y a-t-il une différence fondamentale entre M. Mélenchon et Mme Marine Le Pen ? Personnellement, je ne crois pas.
Je crois quand même, en termes d'héritage philosophique, idéologique, quand même un peu.
En tout cas, on a là donc trois forces politiques pour l'instant. On voit bien qu'une gauche se reconstitue, mais autour de ce qui est en tout cas de plus radical et d'ultra, c'est-à-dire Mélenchon. Mm-hmm. On voit bien que la droite, les électeurs en tout cas, se sont regroupés autour d'une droite qui, il y a encore 30 ans, était considérée comme à jeter avec les poubelles de l'histoire. Mm-hmm. Tout cela est une recomposition. Est-ce qu'elle est heureuse ? On verra.
Est-ce que les institutions de la Ve République sont prêtes pour supporter ce nouveau paysage morcelé ?
À mon avis, non. Et quand je dis deux partis qui étaient les partis de gouvernement de la Ve ont disparu, à mon sens, ça veut dire qu'il y a à l'évidence une remise en cause de la Ve République. Mais ça n'est peut-être pas une mauvaise chose. La Ve République est arrivée à un pouvoir extrêmement concentré, que ce soit par la centralisation ou par la pyramide du pouvoir. Un conseiller à l'Élysée a plus de poids qu'un président de groupe à l'Assemblée nationale, ne parlons même pas du Sénat. Donc les ministres ne sont plus vraiment... ne sont plus vraiment les ministres que l'on pouvait connaître auparavant, qui pouvaient prendre des décisions, qui avaient de l'autorité, qui avaient un poids politique capable, voire de s'imposer au Premier ministre ou au Président. Ça n'est plus le cas. Oui. Donc, effectivement, il serait temps d'avoir un pouvoir beaucoup plus, non pas diffus, mais équilibré, rééquilibré, pour que le chef de l'État s'occupe non pas des horaires scolaires, mais des grandes questions nationales.
Michel et ensuite François. Michel Barrin.
Oui, deux choses. On parle d'héritage. L'héritage des LR, c'est quand même l'ancien héritage gaulliste. Quand on regarde ce qu'il est devenu, il n'y en a plus un seul, je veux dire quasiment. Ou quelques dinosaures. Ou c'est l'héritage giscardien. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Il pourrait y en avoir quelques-uns. Mais là aussi, l'héritage de Mélenchon, c'est celui de Mélenchon, grand républicain. Mais où il est, le grand républicain ? Il est du côté des WAC, il est du côté des manifestations des frères musulmans. C'est-à-dire, en fait, les partis, je ne parle pas des gens, ils se sont auto-dissous en abandonnant ce qu'ils sont. Et la Ve République est morte le jour du quinquennat. Quand Sarkozy traite M. Fillon de collaborateur, M. Sarkozy a compris la réalité. Quand la structure du quinquennat a renforcé les pouvoirs du président, elle ne les a pas affaiblis, a renforcé le côté pyramidal, et ça ne pourra plus tenir.
François Casasoprane.
La conjonction des deux, le quinquennat et l'inversion du calendrier,
bah oui,
qui vont de pair. Effectivement, la pratique de la Ve République montre maintenant ses limites avec l'évolution de la vie politique, avec l'effondrement des deux principaux partis de gouvernement. Ça a été bien dit, le suicide. Ils ont abdiqué leur représentativité, ils ont abdiqué leur identité. Parfois, en essayant de jongler avec les contradictions, et ça rejoint un petit peu la question du « en même temps ». On ne peut pas toujours être dans la contradiction avec soi-même, avec son ADN politique, en quelque sorte. Ça conduit aussi à des catastrophes. Et surtout, ce qui va manquer maintenant, c'est une respiration démocratique. C'est-à-dire, une fois que vous avez élu un président, dans des conditions quand même... Il n'y a pas eu de vraie campagne au fond. Il y a eu des coups médiatiques, des réactions médiatiques, des crises aussi. Il n'y a pas eu de vrai débat au fond. Il y aura des élections législatives qui vont arriver très très vite avec les différentes familles politiques en recomposition. Qu'est-ce qui se passe dans les 5 ans qui viennent ? Alors, c'est vrai qu'en même temps, cette représentativité nationale, elle existe encore quand même dans certaines régions. Il y a encore des ancrages forts, des regroupements de personnalités avec une certaine envergure, avec des vraies questions. Ça peut être le cas en Corse, pourquoi pas. Donc il y a quelque chose à imaginer, une nouvelle architecture des pouvoirs, et je pense vraiment une respiration démocratique à mi-mandat, comme font nos amis américains.
Les fameux midterms.
Peut-être un jour.
Certainement. Oui.
Allez, on revient en Corse. Que penser de l'appel à l'abstention claire des partis indépendantistes et des communiqués alambiqués des formations autonomistes, que l'on pourrait résumer ainsi, non à Marine Le Pen, mais pas de consigne de vote non plus, en faveur d'Emmanuel Macron. Est-ce bien responsable pour des élus, des figures politiques, d'encourager les citoyens à ne pas exercer un de leurs droits fondamentaux ? Et je rappelle qu'autour de cette table, vous avez tous été élus. Alors, Laurent Dominati, tiens, pour commencer, sur l'appel à l'abstention.
Ouais. Je n'appellerai jamais l'abstention, mais...
Mais c'est un non-sens quand même pour des élus à appeler à l'abstention.
Oui, je pense qu'on choisit, on explique, on assume. Maintenant, je comprends très bien l'appel à l'abstention parce qu'ils ne voulaient vacciner les uns ni les autres, ne pas faire de peine à un tel et ne pas embêter ni Paul ou Jacques. Voilà, bon, très bien, on comprend très bien la politique aérienne, ça n'est pas très. Mais vous savez, je vais vous dire, puisqu'on parlait de LR. Toi, je suis un fondateur, parce que moi, je suis membre fondateur de
Félicitations.
L'Union de Mouvement et de l'UMP, donc de LR, l'ancêtre de LR. À l'époque, il y avait 400 députés, bon, donc je n'étais pas tout seul. Mais c'est vrai que j'étais très surpris aussi du bureau politique de LR qui dit Nini. Que ça veut dire Nini ? Vous ne faites même pas 10% et vous dites « Ah, je ne veux ni des uns ni des autres, je veux rester tout seul ». Non, vous choisissez, vous assumez. Choisir, ça n'est pas être d'accord. Choisir, ça n'est pas aimer. Choisir, ça n'est pas se soumettre. Je trouve que c'est constituer des alliances. Vous voyez les pays démocratiques, les plus démocratiques du monde, dans les classements internationaux et mondiaux, sont les pays nordiques, l'Allemagne, les Pays-Bas, ils fonctionnent comment ? Madame Merkel fait campagne contre les sociaux-démocrates. Finalement, ils se retrouvent alliés. Ensuite, même chose aux Pays-Bas, même chose au Danemark, même chose en Suède. Ils ont des gouvernements minoritaires de coalition. Ils sont malheureux, les gens ? Visiblement, pas du point de vue démocratique. Alors, ils peuvent protester, ils peuvent ceci, mais c'est pas parce que vous vous alliez, vous avez une coalition, que vous vous dites, finalement, entre un tel et un tel, je préfère un tel, que vous vous soumettez ou vous adhérez. Je trouve que la responsabilité, c'est de dire pour qui on vote quand on est responsable politique. Mais bon, c'est pas si grave.
Moi, je pense que les analystes se trompent quand ils disent que c'est parce qu'il y a eu des appels à s'abstenir que les gens se sont abstenus. Qu'ils n'auraient pas appelé à abstenir, il y aurait eu autant d'abstention.
Oui.
Bon, alors maintenant, je pense que c'est totalement irresponsable de la part d'un élu. Et la réalité, l'appel à l'abstention, c'est devenu un vote Marine Le Pen. Donc moi, je pense que ceux qui ont appelé à s'abstenir sont responsables de la poussée de l'extrême droite en France. Donc je crois qu'il faut le dire d'une manière claire. Alors quand il s'agit de partis, non pas de droite nécessairement, parce que dire que LR était un parti de droite au sens classique du terme, à l'origine, c'est pas ça. L'UMP non plus, le parti gaulliste, c'est pas ça non plus. Dire Nini par rapport à des gens dont l'histoire, y compris l'histoire personnelle, c'est ceux qui ont tenté de tuer le général de Gaulle, j'ai du mal à comprendre. Parce que la réalité, elle est quand même là. Bon, On ne voit pas dans les héritages le général de Gaulle appeler à s'abstenir. Il peut aller en Irlande, mais il n'apprendra pas à s'abstenir. On ne voit même pas Mitterrand dire ça. Pas du tout. L'autre type de personnage. Bon, mais... Donc là, c'est totalement irresponsable. Et qu'on ne se plaigne pas de ce qui arrive ensuite.
François Casasoprane.
Ben, je pense que la réponse était dans votre question. C'était bien alambiqué, ces appels à l'abstention. Et effectivement, c'est irresponsable. On peut ne pas être d'accord. On peut y compris soi-même, avoir du mal à choisir. Et le vote blanc existe aussi. Hein.
Absolument.
Mais qu'un responsable politique appelle à l'abstention, c'est-à-dire en quelque sorte envoie le message que le jeu démocratique ne vaut pas la peine d'être joué, c'est quand même assez surprenant. Et j'ai bien aimé la référence au grand pays démocrate qui fonctionne sur le modèle de la coalition, qui a été fait par Laurent Dominati. Lionel Jospin avait une formule assez juste, je trouve. Il disait « Il faut toujours que l'esprit de coalition l'emporte sur l'esprit de délimitation ». Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une surenchère pour se délimiter vis-à-vis des autres. Et c'est peut-être ça aussi qui crée beaucoup de crispation, beaucoup de violence dans la société.
Alors, et sur les deux tours, hein, l'abstention encore, ça atteint plus de 38% en moyenne. Ce sont également les mêmes formations qui solliciteront pour certaines les électeurs les 12 et 19 juin prochains à l'occasion des législatives. Alors, est-ce que, comme vous le disiez, Michel Barras, les électeurs se soucient d'appels à l'abstention pour après être sollicités?
Vous allez voir que les électeurs vont aller voter pour ces gens qui ont appelé à l'abstention. Donc, effectivement, ça signifie que leur appel à l'abstention n'a absolument pas touché les oreilles des électeurs et que nous sommes plutôt dans l'insignifiance là-dessus, sur cette question-là. Alors maintenant, si on parle démocratiquement, si on parle de la Corse, y a-t-il encore un débat démocratique en Corse? Ce qui est une vraie question. Est-ce que tout n'est pas confisqué? Est-ce que tout n'est pas étouffé par rapport sans doute à des questions importantes? Mais moi, je ne vois plus de débat dans cette île. Hein. Nous sommes effectivement dans une sorte... je ne sais pas trop comment dire, mais après tout, de laisser aller des choses avec un refus de la pensée, un refus de la confrontation. S'il y avait des vraies confrontations à l'Assemblée de Corse, je ne serais pas mécontent. Non, non, on est dans le consensus mou, c'est-à-dire dans l'absence de pensée.
Françoise Casasoprane, il n'y a pas de débat?
Oui, je partage entièrement cet avis, ce qui posera aussi la question du mode de scrutin à l'Assemblée de Corse.
Ah oui.
Et on va avoir de grands débats. J'ai entendu tout à l'heure que tout n'était pas ficelé, qu'on pourrait co-construire un statut pour la Corse.
On y arrive.
Moi, je me souviens toujours que ces statuts, les précédents, se sont construits à l'Assemblée de Corse. Ils ne se sont pas construits dans un dialogue entre l'exécutif corse et l'exécutif national. Ils se sont toujours construits l'Assemblée de Corse, qui était la matrice des changements. Ça tenait aussi à une certaine pluralité au sein de l'Assemblée de Corse. Beaucoup. On se souvient, moi j'étais à l'époque jeune élu. Les accords de Matignon, ça part de deux motions. Apparemment que tout opposé, puis qui se sont rapprochés petit à petit et qui ont ouvert un champ des possibles. Je pense que c'est un vrai défi pour la Corse, que l'Assemblée de Corse ait vraiment ce rôle de matrice et pas simplement une confrontation de donnant-donnant. Je te passe le sel, tu me passes la rhubarbe, mais on arrivera à trouver un joli statut qui conviendra à tout le monde.
Laurent Dominati, à quoi sert l'Assemblée de Corse?
Elle sert, comme toutes les assemblées, à débattre et surtout aussi à prendre des décisions. N'oublions pas que il y a une espèce d'incertitude sur l'Assemblée de Corse, parce que ceux qui en sont membres pensent que c'est une sorte de pré-assemblée nationale. Et l'État, lui, considère que c'est un conseil régional amplifié des pouvoirs par un statut particulier, des pouvoirs du conseil départemental. Alors effectivement, il y a une espèce de mal-donne, je dirais, préalable. Et c'est vrai qu'il y a de beaux débats, il y a de belles motions, enfin bon, souvent l'unanimité qui porte sur des sujets vagues et fondamentaux. Mais les sujets, je dirais, à traiter, c'est intéressant cette semaine-là, le sujet sur les déchets. C'est intéressant quand même. C'est un sujet fondamental. Quand je dis fondamental, c'est un sujet fondamental pour tout. Je veux dire, pour la vie quotidienne, pour la Corse, pour la planète, enfin pour tout ce qu'on veut.
Et de la compétence directe de l'Assemblée.
Et la seule compétence de l'Assemblée. Ce qui est intéressant, c'est quand même, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, on peut essayer d'avoir des solutions, et je dirais là, les plus modernes et les plus avant-gardistes possibles. Je ne porte pas de jugement sur le fond, je ne suis pas élu à l'Assemblée, mais voilà un débat qui mérite d'être sur la place publique. Alors, il y a eu des débats et des prises de position. Moi, ce qui m'a étonné, c'était qu'elle me paraissait un petit peu politicienne, vous ne croyez pas ? Que les anciens qui étaient ensemble pendant 6 ans, finalement, disaient « Ah ben non, ce n'est pas tout à fait ça qu'on voulait ». Même chose pour la délégation de service public. Il y a déjà beaucoup de choses. Et bon, mais enfin, c'est facile de critiquer. Je reconnais aussi que c'est facile. Moi, j'ai été élu. C'est pas si simple non plus d'arriver à des consensus et à des propositions. Pour revenir à l'abstention, vous verrez qu'il y aura moins, il y aura plus d'abstention pour les élections législatives qu'il y en a eu pour la présidentielle en Corse. Et je vous fais remarquer qu'il n'y a pas eu plus d'abstention, si ma mémoire est bonne, pour les présidentielles en Corse que pour les territoriales.
C'est vrai.
Alors, je crois que sur tout cela, il faut être très modeste. C'est l'électeur qui est le souverain.
Est-ce que, justement, cette non-prise de position peut nuire au rendez-vous possible, éventuel, entre l'exécutif territorial et le futur ministre de l'Intérieur, de l'Aménagement, des Collectivités, ou que sais-je, prévu les 18 ou 19 mai ? Je précise qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, la composition du nouveau gouvernement n'a pas encore été dévoilée. Donc, est-ce que le non-positionnement lors du second tour de la présidentielle nuira au futur statut de la Corse, François Casasoprane? Comme ça, vous répondez à Laurent Dominati.
Donc, j'espère que non. J'espère que non. Permettez-moi d'être optimiste pour le coup. J'espère qu'on arrivera quand même à de vraies discussions. Peut-être pas dès le 18 mai. Hein, je pense qu'il faut aussi, et si on respecte la démocratie, on a entendu beaucoup parler de démocratie ces dernières années en Corse. Peut-être aussi qu'il faut en débattre, il va y avoir un temps démocratique nouveau, on n'en a pas parlé pendant la présidentielle, ça a été dit tout à l'heure, peut-être qu'au moment des législatives, il faut un petit peu en parler, sans rentrer forcément dans tous les détails et toutes les subtilités administratives d'un tel statut, mais peut-être jouer carte sur table. Voilà. Quand on voit la logique de coalition, elle impose aussi de jouer carte sur table, parce que faire campagne diamétralement opposée et se retrouver après, c'est un petit peu compliqué. C'est ce qu'on a tendance à voir beaucoup à l'Assemblée de Corse et aux élections territoriales. On a quand même parfois des surprises, mais je crois que c'est le mode de scrutin qui veut ça aussi. Hein. Le fameux, on parlait tout à l'heure du quinquennat, je pense que d'avoir complètement modifié il y a quelques années, on se présentait au premier tour, on pouvait fusionner librement, il suffisait de faire 5% pour se maintenir. Oui. On a tout fait vraiment pour avoir... j'allais dire, on cherchait peut-être un bipartisme, mais ben, on est tombé, manque de bol, j'ai envie de dire, on est tombé plutôt sur un quasi-parti unique.
Michel Barra, est-ce que l'autonomie est sérieusement envisagée par Emmanuel Macron, selon vous ?
Alors, premièrement, j'en sais rien. je veux dire, je pense pas que l'actuel président soit un si grand décentralisateur que ça. Je ne pense pas que sa tradition elle-même intellectuelle n'est pas là. Ce que je pense, quand il s'agit de la Corse, on parle de la disparition, non pas des départements, des deux conseils départementaux. Les départements, ils existent toujours. La preuve, il y a toujours deux préfets. La question du rôle du préfet dans la question de la décentralisation est un vrai rôle. J'ai remarqué quand même que le président de la République, au grand dam de certains, y compris de mes amis, est tenté et même a commencé à dissoudre le corps des préfets. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Est-ce qu'il y a simplement une modification d'un recrutement du grand commis de l'État qu'est le préfet dans la région ? Ou est-ce qu'il y a derrière une nouvelle conception de la représentation de l'État dans les territoires ? Là, il y a quand même quelque chose qui s'est passé dont il faudrait savoir si c'est de l'administration ou de la politique. Je ne suis pas sûr que ça soit que de l'administration. Parce qu'on a la même chose avec le corps diplomatique. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Beaucoup vont être à regretter la dissolution des grands corps. Moi, j'étais toujours contre l'existence des corps. J'étais pour l'existence de l'ENA et contre les corps. Parce que je pense que les corps, c'est de la reproduction sociale qui sclérose la vie et qui enlève le pouvoir démocratique aux élus.
Laurent Dominati.
Quelle est la question ?
Sur la question, qu'est-ce qu'on met dans la coquille autonomie?
Ah, mais les fondamentales. Il nous faut plusieurs débats.
Ça tombe toujours sur vous.
À l'Assemblée de Corse, puis à l'Assemblée nationale. Toute la question d'autonomie est là. Toute la question d'autonomie, c'est qu'est-ce qu'on met dedans avant de parler de la reconnaissance du peuple corse, la reconnaissance du Corse comme langue officielle, qui sont des sujets presque philosophiques et assez compliqués. Qu'est-ce qu'on met? Les déchets, bon, d'accord, c'est fait. L'école, monsieur le recteur.
Ah oui.
L'école, alors, on met l'école. La santé, tiens.
La sécurité sociale.
La sécurité sociale, on la met. Les transports,
comment
ils sont déjà.
En Polynésie, c'est plus la sécurité sociale française.
Il y a une sécurité, exactement. Donc on peut le mettre. Alors après, il faut mettre les moyens en face. Ah. Parce qu'effectivement, si vous mettez la santé, par exemple, bah, ce sera à la Corse de gérer la santé, les hôpitaux, les déficits, etc. Donc il faut effectivement demander, et ne pas se tromper dans le chiffrage, une certaine enveloppe pour la Corse. Vous avez par exemple la fiscalité. Au Pays Basque, par exemple, le statut de la fiscalité, c'est le Pays Basque qui prend toute la fiscalité et puis il donne chaque année un pourcentage, une somme, quelque chose à l'État central espagnol. En Sicile, c'est l'inverse. La Sicile a toute la fiscalité, mais comme ça ne suffit pas à gérer les écoles, la santé, etc., ce sont les autres régions italiennes qui donnent de l'argent à la région autonome de Sicile. Donc ce sont ces questions-là qu'il faut traiter. Il faut les traiter sérieusement et de bonne foi, parce que tout cela est possible. Il peut y avoir une sécurité sociale corse, les Alsaciens l'ont bien. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper dans le chiffrage, et puis ensuite, il faut la gérer. Et donc, pour l'instant, ce que je crains de ce que je vois, c'est qu'on se gave de grands mots, de grands principes, en disant « Ah, ça, c'est la première des choses à voir », mais on ne rentre pas dans la réalité de ce qu'un pouvoir local et autonome. Donc l'autonomie, moi j'ai écrit plusieurs articles sur ce sujet-là pour dire que sur le fond j'étais plutôt pour, parce que je pense, en bon libéral, que plus on est proche des gens, plus on est proche citoyen, mieux on peut gérer. Bon, pas tout évidemment, je suis pour le principe de subsidiarité européen apporté jusqu'au village. Oui. Donc il faut une bonne entité locale, parce que sinon on est trop petit, et puis ne passer au-dessus que lorsqu'on est plus efficace, quand on est au-dessus. Donc l'autonomie de ce point de vue-là, moi je suis tout à fait pour, et puis ça, on sortira peut-être des faux-semblants. Oui. Mais il faut avoir cette discussion-là, avec l'argent en face.
François, et ensuite Michel Barra.
Je regrette que cette discussion de l'autonomie va arriver pour moi, et permettez-moi, parce que j'ai beaucoup milité à ses côtés, il manquera quelqu'un qui avait fait beaucoup de bien à l'Assemblée de Corse dans toutes ces discussions, c'est Pierre Chaumont. Je voudrais vraiment avoir une pensée pour lui, et je me souviens de nombreuses discussions avec lui. J'en retiens trois choses. On ne peut pas faire l'économie du débat sur les principes, mais pas pour dire, avoir des grands mots. Il faudra bien un moment affirmer les principes avec lesquels on ne transigera pas. Ça, on ne pourra pas faire l'économie. Ça va également des politiques européennes. Hein. Ce n'est pas forcément que les représentations que nous pouvons avoir de l'indivisibilité de la République. Ça part sur un certain nombre de principes. Les droits de l'homme, l'Union européenne, la laïcité. Quoi qu'il arrive, il y a des marqueurs comme ça sur lesquels nous ne reviendrons pas. Il y a une deuxième question. C'est celle des pouvoirs. Je pense qu'elle va être centrale, parce que ça a été dit, sur les compétences, on a quand même donné beaucoup de compétences. C'est le troisième niveau, celui des compétences. On a donné beaucoup de compétences à la collectivité de Corse. Il faudra un petit peu de temps pour les digérer, hein, ça a été dit à force d'exemple précédemment. Mais maintenant, il va falloir parler des pouvoirs et être clair qu'est-ce qui permettrait de faire avancer un certain nombre de dossiers. Est-ce que c'est du pouvoir législatif ou pas? Comment on conçoit ce pouvoir législatif? C'est-à-dire, est-ce que tout s'applique en Corse, sauf si on dit que ça ne s'applique pas? Ou est-ce que ne s'applique en Corse que ce qu'on décide en Corse? Ça, c'est des vraies questions, pour le coup, constitutionnelles, même plus administratives.
C'est constitutionnel.
Beaucoup politiques, beaucoup constitutionnelles, les deux se mélangeant. Et je pense qu'il va falloir ordonner le débat comme ça. À mon avis, on ne fait pas l'économie des principes. Dire ce qu'on veut, et surtout, ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas couper le cordon avec un certain nombre de principes. Moi, je suis prêt, comme ministre apparemment, à aller très très loin dans l'autonomie. Par contre, sur la laïcité, sur les droits de l'homme, sur l'Union européenne et sur les politiques européennes, il y a des renoncements auxquels nous ne sommes pas prêts. Et il faudra le dire. On ne fera pas cette économie.
Michel Barra.
Je vois que sur ce sujet, on confond deux choses. L'indivisibilité de la République, pour laquelle je suis, et l'indivisibilité de la nation, qui, elle, est plurielle. La République est une... Mais notre nation est plurielle, c'est même son histoire. Donc la question doit être mise dans ce cas. L'autonomie en tant que telle, si on raisonne comme ça, n'est pas en soi choquante. Le risque, effectivement, c'est une autonomie. Ça implique aussi des moyens, des choses concrètes, c'est-à-dire des sous. Et le vrai problème, c'est autour de la fiscalité que ça va se faire. Alors, s'agit-il d'avoir une autonomie pour transformer la Corse en une sorte de grand Malte et de zone, comme en France, dans lequel qui sera ouvert à tous les trafics, disons les choses telles qu'elles ont, ou sera au contraire de faire une autonomie dans laquelle on va libérer l'économie, on va libérer les activités. L'enjeu, il est là. Donc c'est derrière la conception de la fiscalité que va se jouer la vraie question de l'autonomie. La question de l'autonomie, c'est une question... La vraie question, c'est la question de la fiscalité. Non pas simplement, d'ailleurs, de qui va utiliser la fiscalité, mais comment elle va être faite et pour qui.
Allez, dernière partie de cette émission consacrée aux législatives. Doit-on s'attendre à une prime au sortant? Je rappelle Paul-André Colombagne et Jean-Jacques Ferrara au sud, Michel Castellagne et Jean-François Acquavive, Jean-François n'importe quoi, Jean-Félix Acquavive au nord. Laurent Dominati.
Oh, je sais pas, je suis pas devin.
La prime au sortant, généralement c'est ce qu'on dit.
Oui, je sais pas si pour l'initiative la prime est à ce point importante. Je pense que... Je ne suis pas devin du tout, donc je ne peux pas... Je pense que la carte électorale ne sera pas celle, en Corse en tout cas, des présidentielles. Oui. Ça, c'est presque une certitude. Et donc, je pense effectivement que les députés sortant un petit avantage, ils sont connus. Mais bon, je ne suis pas spécialiste électoral à ce point.
Michel Barra.
Une première remarque, je ne comprends pas quand on se veut nationaliste qu'on se présente aux législatives. Je trouve qu'il y a une contradiction dans les termes.
Ils l'ont expliqué, ils se sont justifiés. Oui, non,
mais,
hein, voilà,
mais c'est aussi de l'ordre de l'ignorance. Parce que le député ne représente pas la circonscription dans laquelle il est. En droit pur, le député est le représentant de la nation. Bon, c'est un petit détail. Cela dit, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la carte électorale des présidentielles et celle des législatives est différente. La question des personnes vont jouer beaucoup, y compris du côté des personnalités nationalistes. Si je prends l'exemple d'Ajaccio, je pense que ce ne sera pas les mêmes résultats, parce que si c'est le maire d'Ajaccio qui y va, je pense que nous changerons de député. Ça ne veut pas dire que le maire d'Ajaccio va gagner, mais nous changerons de député.
Oui. Vous serez candidat, François Casasoprane?
On a le droit au joker. Non, on va pas le droit au joker. Non, mais à l'heure actuelle, il s'agit surtout de discuter. Moi, je crois que les jeux sont encore ouverts. Oui. C'est pour la première fois, peut-être pas la première fois, mais en tout cas depuis longtemps, les jeux sont encore ouverts.
Vous croyez en cette nouvelle union populaire écologique et presque sociale?
Moi, je crois qu'il y a une exigence, c'est de se parler.
Par
les gauches irréconciliables pourrait se réconcilier. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est pas la soumission qui m'intéresse ou la capitulation en race campagne, c'est aussi affirmer un certain nombre de choses, affirmer un certain nombre de principes. Mais je crois qu'il y a une exigence. On parlait l'autonomie, pourquoi faire ? Il y a quand même une question aussi de redistribution des richesses, de pauvreté, de propriété. Hein. Quand on parle de la propriété, il y a aussi... est-ce qu'aujourd'hui, les propriétés ne sont pas trustées ? Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la nationalité de ceux qui en profitent le plus. J'ai envie de dire c'est secondaire pour moi. C'est peut-être ce qui nous différencie des nationalistes. Mais il y a peut-être des questions à se poser aussi là-dessus. Ça veut dire quand même qu'il y a une exigence pour la gauche de se parler, d'y aller unis, de porter un message. Les victoires sont quand même assez compliquées parce qu'on part de loin. Mais le jeu est quand même ouvert. En tout cas, ce qui est bien, c'est d'avoir la clarté. On en a marre aussi d'avoir des gauches qui se disent... très à gauche au moment des législatives et qui, au moment des territoriales ou des municipales, court pour un strapontin chez des nationalistes ou chez des gens de droite.
C'est presque un début de campagne, François Casasoprane. Est-ce que désormais les législatives sont justes, alors juste avec plein de guillemets, le troisième tour de l'élection présidentielle? Et on finira sur cette question. Michel Barra, pour conclure.
Non, je ne pense pas que c'est un troisième tour. Je pense que la structure est faite, que c'est devenu une sorte de mécanisme. Avec le quinquennat et l'inversion du calendrier, les législatives sont importantes parce qu'il y a besoin d'une majorité, mais le sort des législatives, il n'y en a pas. Donc on est ici dans le pur jeu, mais au sens de la mécanique, avec une petite tolérance quant au nombre de députés qui permet aux aux engrenages de fonctionner, mais les législatives ne sont plus devenues une élection de décision.
Laurent Dominati.
Non, mais votre question révèle justement, on a un vrai problème. On a un vrai problème institutionnel en France, et il est confronté à un autre problème aussi institutionnel, qui est le fonctionnement de l'État. On parlait d'administration pénitentiaire tout à l'heure. Il y a 1000 exemples qui montrent que l'État fonctionne de moins en moins bien. Il est de plus en plus pauvre, tout en pesant de plus en plus lourd. Donc on a un problème aussi de modernité de l'État, de conception moderne du pouvoir et des pouvoirs. Et on a l'impression d'être dans un arc, alors que la société mondiale, enfin, je veux dire que le monde avance dans une modernité absolument époustouflante, on ne comprend pas tout, avec des techniques extraordinaires, on a l'impression que l'État et la réflexion politique, en même temps, reculent. Ça veut dire qu'on est moins moderne qu'en 1960. On est moins divers, moins diversifié, moins tolérant, plus violent, plus jusqu'au boutiste, avec moins d'idées. Donc, et les législatives, bon, on en parle parce que moi, j'étais ancien député, alors ça me fait toujours plaisir de saluer les amis. Mais enfin, c'est vrai que ça n'est plus l'élection fondamentale d'auparavant. Et donc, c'est un vrai problème. Et on a un problème de modernisation en France, qui est une modernisation intellectuelle, culturelle, politique et institutionnelle. Voilà un beau travail à faire.
François Casasoprane, vous avez le mot de la fin.
Il y aura 577, troisième tour à ce compte-là. Moi, je pense très honnêtement qu'il faut vraiment que ça soit un moment démocratique. Donc il faut qu'il y ait de l'enjeu. Il y a bien entendu une suite logique, c'est les institutions de la Ve République, renforcées, ce qu'on disait tout à l'heure, par le quinquennat, l'inversion du calendrier. Mais il faut qu'il y ait un vrai enjeu démocratique. J'ai pas trop aimé l'Assemblée sortie des urnes en 2017, avec des gens qui arrivaient et qui disaient « Il faut que l'Assemblée nationale fonctionne comme une start-up. Il n'y a pas besoin de débattre. Il faut en une heure passer quatre textes législatifs. » Je pense que c'est pas très sérieux. Il n'y a pas beaucoup d'esprit public là-dedans. Ben, peut-être que le vrai enjeu de ces élections législatives, c'est qu'on remette un petit peu d'esprit public, un petit peu de débat, un petit peu de conviction. J'y crois. Et puis peut-être aussi un petit peu de responsabilité.
Merci beaucoup François Casasoprane, Laurent Dominati et Michel Barra de m'avoir accompagné durant cette émission. On se retrouve très bientôt. Revue de Corse, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue tout le week-end. Vous pouvez réécouter cette émission demain à 13h et dimanche à 18h, ainsi que sur notre site internet corsicaradio.fr. On se dit à très vite. Salut.